Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. En 1920, la ville de Boston conteste à New York le titre de capitale mondiale de la finance. C'est là, au cinquième étage du bâtiment Niles, au 27 School Street, que siège la Securities Exchange Company, une jeune société qui promet aux investisseurs de doubler leur capital en 90 jours. Rien que ça. La Securities Exchange Company a été créée en janvier 1920 par un jeune immigré italien débordant d'ambition. Très vite, les habitants de Boston font le siège du bureau de la société dans l'espoir d'y placer leurs économies. En moins d'un an, la fortune de certains va en effet doubler, voire plus, et surtout, celle de Carlo Ponzi, alias Charles Ponzi, le fondateur, va atteindre des sommets jamais vus en si peu de temps. L'histoire paraît trop belle pour être vraie, sauf pour Ponzi, qui semble croire en sa bonne étoile. Mais derrière cette belle promesse de rendement, hors du commun, se cache en réalité une mécanique vouée à l'échec. Le temps est compté, mais Charles Ponzi ne semble pas s'en soucier, tout du moins pas au début de son affaire. En moins d'un an, Ponzi va provoquer la faillite de très nombreux investisseurs et de plusieurs banques, et le type de système qu'il a imaginé non seulement le rendra célèbre partout dans le monde, mais finira également par porter son nom. Charles Ponzi est arrivé à Boston à point nommé, au début des années 1920, les années rugissantes. L'Amérique était au début d'une période de croissance et d'insouciance qui allait durer près de 10 ans. Le reste du monde ne sera pas épargné par le phénomène. En Europe, ce sont les années dorées ou les années folles en France. À l'aube de cette décennie, l'Amérique avait changé. Elle était redevenue prospère et l'idée que chaque sou gagné à la sueur de son front devait être dépensé avec parcimonie, à défaut d'être mis de côté, n'était plus vraiment de mise. L'argent devait couler à flot. L'idée véhiculée par les journaux de l'époque était que tout le monde pouvait devenir riche. Il suffisait de le vouloir. Les innovations dans de nombreuses industries ont relancé une économie tombée à plat pendant la Première Guerre mondiale. Et les méthodes de production de masse ont permis la production standardisée et rapide de divers biens, comme l'automobile, par exemple. Des milliers de nouveaux véhicules n'ont pas tardé à remplir les rues de la ville. La radio, les films parlants puis en couleur font leur apparition. Le développement de certaines industries en entraîne d'autres. La bourse, stimulée par ce boom économique, entame une longue ascension qui se terminera avec le krach de 1929. Les femmes obtiennent le droit de vote en août 1920. Des villes comme Boston et New York accueillaient de nombreux immigrants venus chercher fortune. Après les privations dues à la Première Guerre mondiale, les gens cherchaient à s'enrichir pour profiter de la vie, s'amuser et faire la fête. C'était aussi le temps de la prohibition, l'interdiction de produire de l'alcool et d'en faire commerce. Mais comme tout le monde, ou presque, enfreignait cette interdiction jugée abusive, l'obligation de respecter certaines lois devenait discutable dans un pays jusque-là très puritain et moralisateur. En fin de compte, violer la loi pouvait ne pas être si grave, après tout. La contrebande d'alcool, les jeux d'argent et la prostitution font la fortune des gangsters, dont le plus célèbre d'entre eux, Al Capone. Le climat social est toutefois tendu. En 1919, environ 4 millions de grévistes réclament de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. Certaines grèves donnent lieu à des échauffourées avec la police, comme à Boston. De nombreux attentats anarchistes surviennent en 1920 en réaction. C'est la toile de fond de l'affaire Sacco et Vanzetti, qui se terminera par la condamnation et l'exécution des deux anarchistes pour des braquages dont on ne sait encore aujourd'hui avec certitude s'ils en étaient les auteurs. C'est dans ce contexte à la fois tumultueux et porteur d'espoir, à la fois propice à l'entreprise et à la réussite par tous les moyens, ou presque, que Charles Ponzi débarque à Boston en 1919, pour la deuxième fois, le cœur vaillant. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi est né à Lugo, en Italie, le 3 mars 1882. Sa famille était de l'aristocratie italienne liée au duché de Parme, mais n'avait plus un sou. Quand Charles est né, son père travaillait comme facteur et sa mère, Imelda Panzi, s'accrochait à l'idée de redorer un jour le blason de la famille. Elle fondait de grands espoirs en Charles. Avec les quelques économies de la famille, Charles a pu entreprendre des études à l'université de Rome. Mais au lieu d'étudier pour décrocher un diplôme qui pouvait lui assurer un meilleur avenir et réaliser le rêve de sa mère, il a dépensé tout son argent dans les bars, les cafés et l'opéra avec ses amis les plus riches. Fauché et sans diplôme, il ne lui restait plus qu'à émigrer vers le Nouveau Monde, l'Amérique, là où tant d'Italiens émigraient chaque année dans l'espoir d'y faire fortune. Certains en revenaient vraiment riches, ce qui donnait envie aux autres de suivre leur exemple. Sa famille avait réuni tant bien que mal environ 220 dollars pour lui payer la traversée et l'aider à s'installer là-bas. Charles commence par dépenser 20 dollars pour s'offrir une place en première classe et perd les quelques 200 dollars restants dans différents paris pendant la traversée. Le 15 novembre 1903, il arrive à Boston à bord du SS Vancouver avec seulement 2,5 dollars en poche. De Boston, il rejoint Pittsburgh grâce au billet de train prépayé par sa famille pour y séjourner un temps chez un lointain parent. À ce moment-là, Panzi ne parlait pas un mot d'anglais. Pendant les 4 années qui suivent, il longe la côte est des États-Unis, enchaînant les petits boulots mal payés. Commis d'épicerie, réparateur de machines à coudre, vendeur d'assurance, entre autres. Il passe d'une ville à l'autre, parfois par chemin de fer, parfois à pied. Ainsi, après Pittsburgh, il mettra les pieds à New York. Paterson, New Haven, Providence, avant de se poser à Montréal, au Canada, en juillet 1907, sans raison précise, peut-être pour fuir la chaleur estivale, comme il l'écrira lui-même plus tard dans ses mémoires. Près de la gare, Panzi tombe sur l'enseigne de la Banco Zarossi. Il se décide à franchir les portes de la banque, se présente sous le nom de Charles Bianchi, descendant d'une riche famille italienne, et finit par s'y faire embaucher comme assistant. La Banco Zarossi était dirigée par Luigi Zarossi, et les principaux clients de la banque étaient des travailleurs immigrés italiens qui avaient besoin d'un endroit sûr pour conserver leur salaire et d'un moyen d'envoyer de l'argent à leur famille restée en Italie. Les grandes banques n'étaient pas intéressées par ces petits clients, mais une autre banque italienne installée à Montréal faisait de l'ombre à la Banco Zarossi. Pour arracher les clients à la concurrence, Zarossi avait mis en place un stratagème. Il proposait aux clients 6% de taux d'intérêt sur leurs dépôts bancaires alors que la concurrence n'en offrait que 2. Intrigué par un tel écart, Panzi avait demandé à Zarossi comment il faisait pour offrir de telles conditions. Zarossi lui a expliqué que le taux normal était de 3%, mais que la concurrence prenait 1% de marge et que lui ne prenait pas de marge, et proposait en plus le double du taux normal. En plaçant leur argent dans la banque Zarossi, les clients pouvaient ainsi gagner le triple de ce qu'ils auraient pu gagner ailleurs. Zarossi était incapable de payer ses taux d'intérêt élevés et a rapidement commencé à utiliser les nouveaux dépôts pour payer les clients qui retiraient leur argent. En somme, il déshabillait Pierre pour habiller Paul, selon l'expression bien connue. Un stratagème vieux comme le monde. Mais en 1908, moins d'un an après que Panzi est venu travailler pour lui, Zarossi a pris la poudre d'escampette. Il s'est enfui au Mexique avec un sac plein d'argent en laissant toute sa famille derrière lui. Zarossi avait fait de mauvaises affaires dans l'immobilier et devait beaucoup d'argent. Il n'y avait pas assez de nouveaux dépôts pour couvrir les pertes et quand les clients ont appris ses difficultés, ils ont cherché à retirer leur argent de la banque Zarossi, ce qui a précipité sa faillite. Panzi n'est pas inquiété par la justice, mais se retrouve sans emploi. Il s'installe un temps dans la demeure Zarossi pour aider sa famille, mais l'argent vient très vite à manquer. Finalement, il est entré dans les bureaux d'un ancien client de Zarossi, la société Canadian Warehousing, et s'est attribué un chèque d'environ 423 dollars, falsifiant la signature de Damien Fournier, un administrateur de l'entreprise. Panzi n'a pas pu s'empêcher de se lancer dans d'importantes dépenses après avoir encaissé le chèque, ce qui a éveillé les soupçons de la police, qui l'a très vite arrêté. Condamné à 3 ans d'emprisonnement au pénitencier fédéral Saint-Vincent-de-Paul, un établissement glauque situé à la périphérie de Montréal, il cachera à sa mère sa véritable situation et lui écrira même qu'il avait trouvé un emploi d'assistant spécial d'un directeur de prison. Après sa libération en 1911, Panzi décide de retourner aux États-Unis. mais il s'implique dans un plan visant à faire passer clandestinement des immigrants illégaux italiens de l'autre côté de la frontière. Tous témoignent contre lui et sont libérés. Ponzi est quant à lui arrêté et condamné à 2 ans de prison à Atlanta. À sa sortie, il se rend à Birmingham, dans l'Alabama, puis à Blockton, une petite ville minière, où il servira d'interprète à une large communauté d'Italiens et aidera les commerçants locaux à tenir leur comptabilité. Il sera même infirmier à l'occasion, alors qu'il n'a aucune connaissance médicale. Il découvre qu'il n'y a ni eau courante, ni électricité. L'eau était tirée des puits et des sources. Là, lui vient l'idée de créer une société de service public qui fournirait de l'eau et de l'électricité à toutes les villes minières. Alors que l'affaire semblait bien engagée, un événement tragique est venu contrarier ses plans. Une infirmière, du nom de Pearl Gossett, avait été horriblement brûlée dans une explosion. Elle avait besoin de greffe de peau, sinon elle risquait de perdre ses membres et même de mourir. Ponzi, ayant appris cette histoire, a proposé au médecin de lui prélever toute la peau dont il avait besoin, ce qui était tout à fait admirable quand on sait qu'il ne connaissait pas cette femme. Le médecin lui a finalement pris une partie de la peau du dos et des jambes. Ponzi a souffert les semaines suivant l'opération et a dû lutter contre plusieurs infections. Il est resté au total près de 4 mois à l'hôpital. Et quand il en est sorti, il a appris qu'une société venait de se créer pour fournir de l'eau et de l'électricité aux mines. Quoi qu'il en soit, donner une partie de sa peau à une inconnue pour la sauver illustre l'extrême générosité de Ponzi. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anecdotes à son sujet qui attestent de ce trait de caractère chez lui. Par exemple, il lui arrivait d'acheter des glaces à des enfants qui jouaient dehors. Et il voulait toujours payer à la place de ses amis, quand bien même il ne lui restait plus un sou après. C'est assez contradictoire avec l'image que l'on pourrait avoir d'un personnage comme lui. Mais c'est aussi ce qui le rend attachant. Ponzi se rend ensuite à Mobile, où il devient peintre, puis bibliothécaire, mais à chaque fois cela ne dure pas. Après Mobile, il se rend à la Nouvelle-Orléans, puis à Wichita au Texas, toujours à la recherche d'un bon travail. En janvier 1917, il remet les pieds à Boston, 14 ans après y avoir débarqué en provenance d'Italie. Il y travaille pour une société d'exportation, J.R. Poole, en tant que correspondant à l'étranger. Bien que ce travail ne payât pas beaucoup, il en était satisfait. Il avait alors 35 ans. C'est alors qu'un soir où il sortait, il fait la rencontre de celle qui deviendra son épouse 8 mois plus tard, Rose Maria Gnieco. Rose Gnieco était la fille d'un marchand de fruits italo-américain. C'était une jolie fille de presque 22 ans. Charles Ponzi et elle sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Rose n'avait pas d'autre ambition que de vivre simplement, avec des enfants et son mari, dans une petite maison. Elle n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureuse. Mais Ponzi en voulait plus pour elle. Il voulait acheter des fourrures et des bijoux pour sa Rose. Il voulait qu'elle vive dans une immense maison, avec des serviteurs et des voitures avec chauffeur. Il lui partageait ses rêves de richesse, dont elle n'avait en réalité que faire. Par la suite, Ponzi a repris le commerce des fruits de sa belle famille, qui battait déjà de l'aile. Malgré ses efforts, il ne réussira pas à redresser l'entreprise. Il se décide alors à travailler pour lui-même, emménage dans le Nice Building de School Street et loue une petite chambre au 5e étage qu'il arrange comme il peut afin que cela puisse ressembler à un vrai bureau. Comme il n'avait pas les moyens d'acheter des meubles, il les a loués chez un marchand de meubles d'occasion qui se trouvait à proximité. Sur la porte d'entrée, il avait peint une pancarte indiquant qu'il était dans l'import-export. Il prévoyait en effet d'aider les entreprises internationales à commercer à travers les frontières. Mais comme il n'avait pas de relations professionnelles dans ce milieu, il s'est penché sur les publicités des magazines spécialisés dans le commerce extérieur. De là, lui est venue l'idée d'ouvrir son propre magazine et de vendre de la publicité à l'intérieur pour le financer. Pour se démarquer de la concurrence, il prévoyait de l'imprimer en plusieurs langues et de l'envoyer gratuitement à des commerçants du monde entier. Son plan était de vendre 3 pages de publicité pour 1 page de lecture. Malheureusement, il s'est rapidement trouvé dans l'incapacité de proposer un contenu éditorial suffisant pour remplir tout un magazine et de vendre suffisamment de publicité. Le guide du commerçant, c'était le nom du magazine, était sur le point de s'arrêter avant même d'avoir publié son premier numéro. Un jour, en triant son courrier, il remarque une lettre en provenance d'Espagne. La lettre était sur son bureau depuis plusieurs jours. Son correspondant demandait simplement un exemplaire du guide du commerçant. Joint à la lettre, il y avait un coupon réponse international, un CRI, qui permettait à celui qui avait reçu la lettre de répondre à l'expéditeur sans avoir à payer de frais de port. En somme, le courrier de retour était prépayé par l'expéditeur. Ponzi avait déjà vu et utilisé ces coupons. Il connaissait leur utilité. Ces coupons avaient une valeur dans presque tous les pays du monde et ils étaient libellés dans la monnaie du pays émetteur. C'est là que Ponzi a eu une révélation. Il a réalisé qu'il pouvait faire un profit sans risque en jouant sur les différences de prix entre les pays une fois le change réalisé. Un certain nombre de devises européennes avaient chuté au cours de la Première Guerre mondiale. Il était donc possible d'aller en Europe, d'acheter pour un dollar de ces coupons et de retourner aux États-Unis pour les échanger contre des timbres d'une valeur supérieure. C'est ce qu'on appelle un arbitrage dans le jargon financier, une opération profitable et sans risque du fait d'une anomalie de marché. Cela pouvait le rendre riche, mais il devait collecter beaucoup d'argent pour voyager en Europe, acheter ses coupons, les ramener et les convertir d'une manière ou d'une autre en espèces. Il s'est rendu au guichet de la banque Hanover Trust Company, qui était au coin de la rue, et a demandé à contracter un prêt en expliquant vaguement son projet. Mais la banque n'a pas été séduite par l'idée, pas plus que les autres que Ponzi a tenté de convaincre. Ses amis étaient comme lui, fauchés. Donc, pas d'espoir de ce côté-là. Il ne lui restait plus que l'appel public à l'épargne, mais il fallait appâter les gens. Il devait donc offrir un rendement supérieur à la concurrence s'il voulait que les gens investissent dans son affaire. Il décide donc de créer une société par action appelée Securities Exchange Company. Nous sommes au tout début de l'année 1920 et Ponzi est rempli d'espoir, même s'il ne sait pas encore comment il va pouvoir acheter les coupons en Europe, les rapatrier et les échanger contre des espèces. Cela ne l'inquiétait pas outre mesure, car il pensait pouvoir régler les détails au fil du temps. Par prudence, comme s'il avait un pressentiment que les choses pouvaient mal tourner, Ponzi a inscrit trois noms comme membre fondateur et dirigeant de sa société. Il s'est inscrit comme l'un des dirigeants et a ajouté les noms de John Dondero, son oncle par alliance, et d'un Italien qu'il avait connu et s'était fait passer pour mort en Italie, mais qu'il pensait être encore en vie. Ponzi s'est ensuite lancé dans la collecte de fonds. Sa société émettait des billets à ordre d'un certain montant, 10 dollars pour commencer, qu'elle promettait de racheter dans un délai de 45 jours avec 50% d'intérêt. À ce moment-là, les banques ne payaient que 5% d'intérêt annuel. Les capitaux collectés devaient servir à acheter les coupons internationaux. C'est ce qui était prévu initialement. Quoi qu'il en soit, la proposition de Ponzi était trop belle pour être vraie. Cela aurait pu sembler économiquement malsain en tant qu'investissement. Mais c'était un pari très attractif. Il suffisait juste de donner 10 dollars à la société de Ponzi et voir ce qu'il en advenait. Si la promesse était tenue. Et comme 45 jours plus tard, les souscripteurs récupéraient 15 dollars, ils avaient tendance à en acheter davantage la fois suivante. Ponzi a aussi eu l'idée de recruter des agents pour placer ses billets à ordre auprès du public. Il leur donnait un pourcentage sur l'argent qu'ils ramenaient. Son premier agent vendeur a rassemblé 18 investisseurs le premier mois pour un montant total de 1770 dollars. La collecte a pris de l'ampleur quand, vers la deuxième semaine de février, Ponzi a versé à ses premiers investisseurs le montant de leur investissement initial plus les 50% d'intérêt promis. À partir de là, le nombre d'investisseurs a augmenté rapidement et régulièrement. À la fin du mois de juillet, il y en avait exactement 30 219 qui détenaient des billets de la Securities Exchange Company pour près de 15 millions de dollars. Ponzi avait ouvert les agences dans toute la Nouvelle-Angleterre et recevait quotidiennement des appels téléphoniques de personnes demandant à être son agent dans différentes villes. Mais son succès rapide a aussi attiré des fraudeurs qui s'étaient installés non loin de son bureau pour lui faire concurrence. Ponzi ne pouvait pas les dénoncer à la police, sans quoi il aurait dû expliquer lui aussi comment il pouvait proposer de tels rendements. La plupart des gens de Boston souhaitaient investir quelque chose. Même les gens les plus méfiants ont mis un peu d'argent en pensant qu'il s'agissait d'un billet de loterie. Les plus enthousiastes ont en revanche investi tout ce qu'ils possédaient, allant même jusqu'à emprunter pour investir davantage. Ponzi avait fini par lever les doutes dans l'esprit de la plupart des gens, car très peu, en réalité, ont retiré leur argent. Ils ont sans doute pensé qu'ils pouvaient simplement attendre encore 90 jours et doubler encore une fois leur capital. Il faut dire que Ponzi usait de toutes les ficelles pour convaincre et rassurer les investisseurs. Il avait demandé par exemple à son comptable d'envoyer aux gens des cartes postales quelques jours avant que leur argent ne devienne exigible, afin de leur rappeler de venir le chercher. Quel escroc ferait une chose pareille ? Les choses ont toutefois commencé à mal tourner pour Ponzi lorsque Joseph Daniels, le marchand de meubles à qui il avait emprunté des meubles pour son bureau, a intenté une action en justice contre lui pour lui réclamer $1 million. Daniel s'affirmait qu'il avait aidé à fonder la Securities Exchange Company en lui prêtant des meubles d'une valeur de $230 et $200 en espèces, et que de ce fait, il était associé à parts égales et non un simple créancier. En somme, il revendiquait 50% des parts de la société, ce qui était totalement abusif. Cependant, la justice du Massachusetts a ordonné le gel des activités de la Securities Exchange Company pendant le temps de l'enquête. Et ça, c'était un vrai problème pour Ponzi, car il lui fallait trouver de nouveaux investisseurs pour pouvoir honorer les échéances qui arrivaient. De plus, cette affaire lui faisait de la mauvaise publicité. Mais, grâce à ses réserves, Ponzi a pu payer tous les investisseurs qui avaient demandé leur dû. Cependant, Daniels a réussi à faire bloquer les comptes bancaires de Ponzi. Cette affaire a fait la une du Boston Post le 4 juillet, et un lecteur s'y est particulièrement intéressé, le commissaire bancaire de l'État, Joseph Allen. Il s'est rendu auprès du procureur général du Massachusetts, John Weston Allen, avec lequel il n'avait aucun lien de parenté, pour recommander une enquête sur les activités de Ponzi. Mais le procureur du Massachusetts n'a pas jugé bon d'accéder à cette demande. Pour finir, Ponzi a payé $50 000 à Daniels afin de pouvoir débloquer ses comptes. À ce moment-là, Ponzi s'était construit le style de vie dont il avait toujours rêvé. Il s'était acheté un manoir de 12 pièces dans le quartier chic de Lexington. Il avait des domestiques, plusieurs automobiles, dont une limousine construite sur mesure. Il était toujours impeccablement habillé et arborait une canne Malacca à manches d'or. Il avait aussi couvert sa rose de cadeaux. Il a acheté des sociétés, des biens immobiliers et prêté à ses amis, en partie pour qu'ils puissent investir dans ses billets à ordre. Il a aussi acquis des actions dans plusieurs banques et y a déposé une partie de son argent. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était le contrôle total d'une banque. Il a ainsi manœuvré pour prendre le contrôle de la banque Hanover Trust, la même banque qui avait rejeté sa demande de prêt l'année précédente. Il avait commencé par acheter des blocs d'actions de la banque au fur et à mesure de leur mise en vente. Et parallèlement, il a lentement augmenté ses dépôts pour devenir rapidement leur plus gros déposant. Au total, il avait déposé près de $2,7 millions, alors que la banque ne comptait que $5 millions d'actifs. Ponzi a ensuite pu facilement convaincre la banque de lui vendre suffisamment d'actions pour qu'il en prenne le contrôle. Il lui a suffi de menacer la direction de retirer tout son argent. Comme la banque en avait prêté une bonne partie à sa clientèle, elle n'aurait pas pu rembourser Ponzi et aurait dû se déclarer en faillite. Après arrangement, la direction a accepté de lui céder 1500 actions sur les 2000 qui étaient en vente et un siège au conseil d'administration, sachant qu'il resterait minoritaire. Ponzi a accepté de son côté un préavis de 30 jours pour pouvoir récupérer son argent, cela afin que la banque ait le temps de se retourner. Mais ce que ne savait pas la direction, c'était que Ponzi avait plusieurs actionnaires de la banque dans sa poche, ce qui en faisait de fait le véritable patron. Lorsque le commissaire Joseph Allen a appris la nouvelle que Ponzi avait acheté 1500 actions de la Hanover Trust, il a de nouveau décidé de faire une enquête sur Ponzi, avec ou sans la permission de quiconque. Le procureur du Massachusetts, l'autre Allen, est lui aussi entré en action, envoyant deux procureurs généraux adjoints se joindre au commissaire bancaire lors d'une réunion avec Ponzi à la maison d'État de Boston. Ponzi a dû être convaincant, car ils ont convenu que sa stratégie semblait plausible et ont estimé n'avoir aucune raison de l'arrêter. Le 24 juillet 1920, le Boston Post publie un article en première page indiquant que la Securities Exchange Company offrait 100% de rendement en 3 mois et 50% en 45 jours. Et il expliquait que ce rendement extraordinaire résultait du commerce des coupons réponses internationaux. Deux jours après la parution de l'article, une scène irréelle et inédite attendait Ponzi alors qu'il se rendait à son bureau dans sa voiture avec chauffeur. Une longue file d'investisseurs s'étendait de l'annexe de l'hôtel de ville en passant par l'avenue de l'Hôtel de Ville et School Street, jusqu'à l'entrée du bâtiment Niles, et continuer dans les escaliers, le long des couloirs, jusqu'à son bureau. À ce moment-là, Ponzi aurait pu assez facilement prendre tout l'argent disponible et s'enfuir avec Rose pour l'Italie. Il aurait été alors difficile pour les autorités américaines de le faire extrader. Il avait bien acheté deux billets pour l'Italie, un pour lui et un pour Rose, afin d'y retourner en voyage de noces et pouvoir ainsi rendre visite à sa mère, mais il s'est ravisé. Les gens auraient pu penser qu'il avait pris l'argent et s'était enfui à jamais. À défaut de prendre des vacances, il a plutôt acheté un billet à sa mère afin qu'elle vienne le rejoindre à Boston. Ponzi a semblé croire à son affaire jusqu'à la fin et n'avait donc pas de raison de s'enfuir. En tout cas, rien ne semble indiquer qu'il s'était préparé à une telle éventualité, même si, bien sûr, il a pu y songer. Richard Grosier était le rédacteur en chef et l'éditeur du Boston Post, l'un des nombreux journaux à Boston, l'une des villes les plus importantes des États-Unis à l'époque. Le Boston Post a été un quotidien de la Nouvelle-Angleterre pendant plus de 100 ans, avant de disparaître en 1956. Le journal avait été fondé en 1831 par deux éminents hommes d'affaires de Boston, Charles Green et William Bills. Le père de Richard, Edwin Grosier, achète le journal en 1891. En deux décennies, il en avait fait le plus grand journal de Boston et de la Nouvelle-Angleterre. Richard s'est retrouvé à la tête du journal quand son père, un mois plus tôt, a été hospitalisé pour avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Lorsque Richard a vu l'effet positif sur les affaires de Ponzi que l'article du 24 juillet avait involontairement provoqué, il était furieux, car Richard était convaincu que Ponzi était un escroc et il avait bien l'intention de le démasquer. Il a demandé au rédacteur en chef du Post City, Edward Dunn, de lancer des investigations sur Ponzi et son entreprise. Dunn a mis deux reporters sur le coup et qui sont allés solliciter le célèbre journaliste financier Clarence Barron. À 65 ans, Barron était propriétaire du Boston News Bureau, du Dow Jones de New York et du Wall Street Journal. Barron était une figure à Boston. Ce barbu de 150 kilos avait une suite réservée au Ritz-Carlton, en face du jardin public de Boston. Une résidence sur Beacon Street et une maison d'été dans la ville chic de Cohasset, dans le Massachusetts. Il était reconnu comme l'une des principales autorités financières du monde. Bien que Barron ait concédé qu'il y avait probablement un moyen pour une personne de gagner une petite somme d'argent rapide sur le système de coupons-réponses postaux, il a calculé que Ponzi devrait déplacer 160 millions de coupons-réponses pour collecter les liquidités dont il avait besoin pour soutenir l'entreprise. Comme il n'y avait que 27 000 coupons-réponses postaux qui circulaient dans le monde, l'histoire de Ponzi ne tenait pas. En outre, les services postaux ont signalé qu'ils n'avaient pas constaté un énorme flux de coupons entre les pays et une nouvelle règle avait été instaurée qui interdisait le rachat pour plus de 50 cents de coupons-réponses internationaux par jour et par personne. Cela rendait désormais impossible pour quiconque de réaliser un profit à grande échelle en négociant des coupons-réponses internationaux. Barron avait également remarqué que Ponzi avait déclaré dans les journaux qu'il investissait son propre argent dans l'immobilier, les actions et les obligations, comme tout investisseur normal. Barron s'est alors demandé pourquoi quelqu'un qui propose un investissement révolutionnaire rapportant 50% en 45 jours n'investissait pas lui-même son argent dans son entreprise, préférant acheter des actifs classiques n'offrant que des rendements standards autour de 5% l'an. Les analyses de Barron ont été publiées dans le Boston Post à partir du 26 juillet. Mais beaucoup d'investisseurs ne pouvaient croire que celui qui les avait rendus riches était en réalité un escroc. Et aux grandes dames de Richard Grosier, Clarence Barron ou Edward Dunn, toute cette publicité négative concernant l'entreprise de Ponzi ne semblait pas altérer l'engouement du grand public. Au contraire, il y avait toujours une longue file de gens devant le bureau de la Securities Exchange Company, attendant de pouvoir acheter les fameux billets à ordre. Assistant à la scène, Edward Dunn pensait alors en lui-même « des porcs que l'on mène à l'abattoir ». À ce moment-là, il était clair que Ponzi avait les faveurs du public. Plus les attaques à son encontre se succédaient, plus son image auprès du public s'en trouvait renforcée. L'une des nombreuses fois où Ponzi était sorti dans la rue pour parler aux investisseurs qui attendaient dans la file, quelqu'un a suggéré qu'il était le plus grand des Italiens. Ce à quoi Ponzi aurait répondu qu'il n'était que le troisième, derrière Christophe Colomb et Guglielmo Marconi. Ponzi a tout de même attaqué en justice Barron, lui réclamant 5 millions de dollars pour l'avoir dénigré, lui et son entreprise, et a même revendiqué sa maison au cas où Barron n'aurait pas l'argent. Au grand soulagement de Richard Grosier, Ponzi n'a en revanche pas poursuivi le Boston Post. Mais Ponzi, qui n'était pas complètement serein, s'est empressé d'embaucher un publiciste réputé du nom de William McMasters pour contrer la presse qui lui était hostile. Un jour, Ponzi a reçu un appel d'un certain Joseph Herman, qui disait représenter les intérêts de certains capitalistes new-yorkais et parisiens, qui étaient intéressés par l'achat de la Securities Exchange Company. Ils étaient apparemment d'accord pour lui en donner 10 millions de dollars. C'était une aubaine pour Ponzi, qui pouvait ainsi avoir son ticket de sortie. Mais l'affaire est tombée rapidement à l'eau, car les acheteurs potentiels posaient comme condition de connaître au préalable son secret et de payer les 10 millions seulement après les avoir gagnés avec son entreprise. Pour calmer les esprits qui s'échauffaient de plus en plus, Ponzi a eu l'idée audacieuse de provoquer une réunion avec les autorités. Il a ainsi invité à une rencontre le procureur de district américain Dan Gallagher, le procureur de district du comté Joseph Pelletier et le procureur général John Weston Allen. Joseph Allen, le commissaire bancaire, n'a quant à lui pas été invité, car Ponzi était convaincu que leur rencontre précédente avait apaisé ses préoccupations. Ponzi leur a alors fait une offre étonnante. Il a accepté un audit de ses comptes par un vérificateur de leur choix pour prouver qu'il avait suffisamment d'actifs pour faire face à ses passifs. Ponzi avait calculé qu'il devrait montrer 15 millions de dollars en espèces et autres actifs liquides pour prouver sa solvabilité. Mais il n'avait, tout au plus, que la moitié de ce montant. Pour combler le trou, il prévoyait tout simplement d'entrer dans la banque Hanover Trust le jour du décompte et, en tant que directeur de banque, de s'autoriser un prêt des plus inhabituels. Il entrait ensuite dans le coffre-fort, en sortait avec plusieurs millions de dollars d'argent d'autres déposants, l'apportait à l'auditeur comme preuve de sa solvabilité, puis le rendait le jour même. Le tour était joué. Il avait aussi accepté d'arrêter la collecte de fonds pendant l'enquête pour ne pas compliquer la tâche de l'auditeur. Dan Gallagher a mandaté Edwin Pride, un expert comptable, pour auditer les comptes de la Securities Exchange Company. Malheureusement pour Ponzi, William McMasters, le publiciste qui l'avait embauché, avait remarqué des contradictions dans le récit que faisait Ponzi lors de ses réunions avec les autorités et des différentes rencontres qu'il avait eues avec la presse. Il était désormais convaincu que Ponzi était un escroc, pas très futé de surcroît. De peur que son association avec Ponzi ne vienne ternir tôt ou tard sa réputation, McMasters a fouillé discrètement dans les affaires de son patron et a fini par y trouver des informations compromettantes qu'il s'est empressé d'aller vendre au Boston Post. Sur la foi de celle-ci, le journal a sorti un article le 2 août qui titrait que Ponzi était désespérément insolvable. McMasters avait indiqué au Boston Post que Ponzi n'avait jamais acheté de coupons réponse à l'étranger et que sa situation nette était débitrice de 2 millions de dollars. Mais l'article n'a pas ébranlé de manière significative la confiance du public. Ponzi a affirmé que McMasters n'avait pas accès aux détails de l'opération et qu'il racontait ce mensonge pour cacher le fait qu'il n'avait pas comptabilisé les 2000 dollars qu'il lui avait donnés pour placer des annonces dans la presse. Pour appuyer son accusation contre McMasters, Ponzi l'a poursuivi en justice pour lui réclamer ce montant. McMasters lui a répondu en le poursuivant à son tour pour 5000 dollars. Mais le public s'est rangé une fois de plus du côté de Ponzi et ses affaires n'en ont que très peu été affectées. Le Boston Post avait reçu du Canada l'information qu'un certain Charles Ponzi, Ponzi avec un S, alias Charles Bianchi, aurait passé du temps en prison à Montréal pour avoir falsifié des chèques. Grosier a rapidement envoyé un journaliste à Montréal pour enquêter. Avec des photos de Charles Ponzi sur lui, le journaliste n'a eu aucun mal à trouver plusieurs personnes, dont le directeur du pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, pour identifier l'homme sur les photos comme étant le même Charles Ponzi qui avait été arrêté et condamné environ 13 ans plus tôt. Le 11 août, tout s'est effondré pour Ponzi. Le Boston Post a publié un article en première page révélant sa condamnation à Montréal pour falsification de chèques. Ponzi était tout retourné, car il avait caché cette histoire à Rose et il redoutait sa réaction. Mais Rose avait été mise au courant par la mère de Ponzi, qui lui avait tout raconté dans une lettre qu'elle lui avait envoyée au début de sa relation avec Charles. Ponzi a fini par reconnaître que c'était bien lui, mais a tenté désespérément de sauver les apparences, en minimisant son rôle, sans doute pour préserver Rose. Pendant ce temps, l'audit des comptes de la société de Ponzi avait bien avancé. Le plan de Ponzi d'emprunter temporairement de l'argent au coffre de la banque Hanover Trust aurait pu fonctionner si le commissaire bancaire Joseph Allen n'était pas intervenu. Lorsque Ponzi a fait son offre d'audit aux autorités, il ne savait pas qu'Allen avait demandé à la banque de surveiller chaque dollar entrant et sortant de ses coffres et de lui fournir des rapports détaillés. Lorsque ces rapports ont renforcé ses soupçons, Allen a posté deux contrôleurs à la banque et a fait fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Le plan de Ponzi, qui consistait à prendre l'argent des déposants pour le montrer à l'auditeur avant de le remettre en place, était tombé à l'eau. Ponzi espérait encore un miracle, mais de miracle, il n'y a pas eu. Le 12 août, soit un jour après l'apparition des articles du Boston Post et du Boston Globe sur la condamnation de Ponzi au Canada, les autorités ont informé Ponzi qu'Edwin Pride avait estimé son passif à environ 7 millions de dollars. Ponzi n'a pas contesté le chiffre et s'est rendu aux autorités ce jour-là pour éviter d'être arrêté chez lui devant sa femme. Dans les jours qui ont suivi, des centaines d'investisseurs se sont déclarés comme victimes, dans l'espoir de récupérer une partie de leurs pertes. Ils ont été aidés par de nombreux investisseurs plus chanceux, ceux qui avaient reçu des paiements de Ponzi et qui ont gentiment rendu leurs gains mal acquis. D'après les estimations, 40 000 personnes se sont fait prendre dans le système de Ponzi pour une perte nette collective d'environ 20 millions de dollars. Pour l'époque, c'était une perte impressionnante, d'autant plus qu'elle avait été réalisée en seulement 8 mois. Le Boston Post recevra le prix Pulitzer en 1921 pour, je cite, « sa dénonciation des opérations de Charles Ponzi par une série d'articles qui ont finalement conduit à son arrestation ». Ponzi a été accusé de fraude postale, une accusation surprenante, puisqu'il n'avait utilisé le courrier que pour aviser les investisseurs de venir percevoir l'argent qu'il leur devait. Rose est restée solidaire de son mari, déclarant à la presse qu'elle l'aimait et le soutiendrait jusqu'au bout. Le vendredi 13 août 1920, Charles Ponzi a été emprisonné et a refusé sa libération sous caution. Le jugement est intervenu le 1er novembre 1920. Ponzi a plaidé coupable et a conclu un accord pour réduire sa peine de prison à seulement 5 ans, alors qu'il encourait la perpétuité. Il a été incarcéré à la prison de Plymouth. Alors qu'il était en prison, les procureurs de l'État du Massachusetts ont continué à porter plainte contre lui. Et en 1922, il a été confronté à de nouvelles accusations de vol de la part de l'État du Massachusetts. Ponzi, qui n'avait pas les moyens de se payer un avocat, s'est défendu tout seul. Il a mis en avant le fait qu'il avait passé un accord avec les autorités fédérales et qu'il ne pouvait pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Il est même allé devant la Cour suprême pour plaider sa cause, mais cela n'a pas marché. Il y eut ensuite trois procès successifs entre 1922 et 1925. Il a été innocenté lors du premier procès en décembre 1922. Il a dû faire face à un deuxième procès en novembre 1924. Le jury n'a pas pu se prononcer. Mais en février 1925, Ponzi a été finalement reconnu coupable lors d'un troisième procès et a été condamné de 7 à 9 ans de prison en tant que voleur commun et notoire. Il a fait appel de la décision et a réussi à obtenir la liberté sous caution dans l'attente de son procès en appel. Alors qu'il était encore en liberté sous caution, Ponzi a pris la direction de la Floride. Là-bas, sous le nom de Charles Borelli, il a mis au point un tout nouveau plan d'investissement, cette fois-ci dans l'immobilier, offrant aux investisseurs un rendement de 200% en 60 jours. Les autorités de Floride l'ont rapidement arrêté et condamné à un an de prison pour avoir enfreint les lois de l'État sur les valeurs mobilières. En appel pour cette dernière accusation, Ponzi a réalisé qu'il ne pourrait pas supporter de retourner en prison. Il a donc cherché à fuir. Se sachant recherché dans tout le pays, il a décidé de simuler un suicide. Il a demandé à des amis de laisser certains de ses vêtements sur une plage avec une lettre indiquant qu'il mettait fin à ses jours. Grâce à son italien courant et à ses années d'expérience en tant que travailleur manuel, il est parvenu à obtenir un emploi de serveur plongeur à bord d'un cargo italien. Le navire est parti de Tampa et Charles Ponzi, qui utilisait alors le pseudonyme d'Andrea Luciana, pouvait se sentir à nouveau libre. Malheureusement, Ponzi n'a pas pu s'empêcher de mettre dans la confidence un de ses compagnons sur le navire, et la nouvelle de sa véritable identité s'est répandue comme une traînée de poudre. Le cargo devait faire une escale à la Nouvelle-Orléans avant de repartir pour l'Italie. Les autorités, mises au courant de la présence de Charles Ponzi sur le navire, sont venues l'arrêter et l'ont ramené dans le Massachusetts. Ponzi y a purgé 7 ans de prison, puis a été rapidement expulsé vers l'Italie, car il n'avait jamais obtenu la citoyenneté américaine. Sa femme est restée à Boston et a divorcé de lui 2 ans plus tard, en 1936, en disant qu'elle l'aimait toujours mais ne pouvait pas rester sa femme, sachant qu'ils ne seraient probablement jamais réunis. ils ont néanmoins continué à se revoir épisodiquement jusqu'à la mort de Charles. Aucun d'eux ne s'est remarié, ni n'a eu d'enfant. Charles prétendait qu'il était lié à Rose pour la vie. Alors qu'il était en Italie, Ponzi a écrit son autobiographie sous le titre « L'ascension de Monsieur Ponzi » qui a été publiée en 1937. En 1939, il est parti au Brésil. Mussolini l'avait nommé directeur de la succursale de la nouvelle compagnie aérienne italienne à la Littoria, à Rio de Janeiro. Malheureusement, la compagnie aérienne a fermé ses portes lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est au Brésil qu'il finira sa vie, dans la pauvreté, malade et presque aveugle. Il meurt dans un hôpital de charité à Rio de Janeiro le 18 janvier 1949, à l'âge de 66 ans. Peu de temps auparavant, il avait donné une dernière interview à un journaliste américain, durant laquelle il avait déclaré, en parlant de tous ceux qu'il avait escroqués, qu'il leur avait donné le meilleur spectacle jamais mis en scène sur leur territoire depuis le débarquement des pèlerins, et de terminer en déclarant que, finalement, tout le monde en avait eu pour son argent. Personne ne sait qui l'a fait en premier. Les escrocs utilisent le stratagème depuis des siècles, payant les investisseurs existants avec les dépôts de nouveaux investisseurs pour créer l'illusion d'une opportunité d'investissement incroyablement rentable. Avant 1920, on appelait ça « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». C'est depuis devenu le système, la chaîne ou encore la pyramide de Ponzi. La féministe Sarah Emily Hove l'avait employé à plusieurs reprises au cours du 19e siècle, de même qu'un certain William Miller en 1899. Miller a exploité une société appelée le Franklin Syndicate qui promettait 10% d'intérêt par semaine à qui investissait dedans. Il était surnommé 520% en raison du taux de rendement annuel promis. Il a escroqué 13 000 personnes pour un total de 1 million de dollars avant d'être arrêté et condamné à 10 ans de prison. Il n'en fera que 5 au total. Par la suite, il se contentera de gérer une épicerie à Long Island sans plus jamais faire parler de lui. Certains disent que Ponzi se serait inspiré de Miller, mais c'est sans doute son ex-employeur à Montréal, Luigi Zarossi, qui a été sa principale source d'inspiration. Le stratagème de Ponzi n'est pas le plus grand de l'histoire à ce jour. Cet honneur revient à Bernard Madoff, arrêté en 2008 pour avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 65 milliards de dollars sur une période de 16 ans, en utilisant le même système qui consiste à rembourser les investisseurs précédents avec les fonds de nouveaux investisseurs. Dans le cas de Madoff, outre le montant de l'escroquerie, c'est aussi sa longévité qui surprend. Ponzi, lui, n'avait tenu que quelques mois avant d'être démasqué. Il faut dire qu'en plus de savoir inspirer confiance, Madoff ne promettait pas de rendement aussi excessif que Ponzi. C'est ce qui lui a permis de passer sous les radars des autorités. Il offrait certes un peu plus de rendement que ses concurrents, mais surtout avec une régularité exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, le système de Ponzi, comme il est coutume de l'appeler à présent, ne peut pas marcher indéfiniment. Supposons en effet que le promoteur d'un tel système propose de collecter seulement 1000 dollars par investisseur et promet de doubler cette somme tous les 3 mois. Disons qu'au premier tour de table, deux investisseurs décident de souscrire à l'opération et apportent donc chacun 1000 dollars. Le promoteur empoche donc 2000 dollars en tout. Pour simplifier, on considère ici que le promoteur rembourse intégralement les investisseurs au bout d'une période et leur verse le rendement promis. Au deuxième tour de table, 3 mois plus tard, le promoteur doit donc disposer de 4000 dollars pour pouvoir honorer son engagement auprès des deux premiers investisseurs. Pour ne pas être obligé de puiser dans les 2000 dollars qu'il a reçus au départ, il aura donc besoin d'un minimum de 4 investisseurs versant chacun 1000 dollars. Au tour suivant, il devra alors récolter 8000 dollars pour pouvoir les payer, ce qui l'oblige à trouver au moins 8 nouveaux investisseurs. Et ainsi de suite. Dans cet exemple, il faudra 2 puissance n investisseurs au bout de n tours, soit plus d'un million au 20e tour, pour que le système perdure. On voit bien qu'un tel plan ne peut pas continuer indéfiniment. Arrivera toujours un moment où les nouveaux investissements ne suffiront plus à couvrir les sommes dues aux investisseurs précédents. En jouant sur les différentes variables d'un système à la Ponzi, on peut certes en prolonger la longévité, comme l'a montré Bernie Madoff, mais il y a toujours un moment où l'argent vient à manquer. L'une des raisons est que les premiers investisseurs sont aussi les plus crédules ou les moins méfiants. À mesure que le système nécessite davantage d'investisseurs, il devient difficile d'en convaincre suffisamment pour que la supercherie tienne indéfiniment. Le promoteur d'un système de Ponzi a donc tout intérêt à disparaître avec les fonds récoltés avant d'être confondu et arrêté. Ce qui est étonnant, c'est que de nombreuses escroqueries de type Ponzi sont régulièrement découvertes à travers le monde. Preuve s'il en est qu'il y a toujours des gens pour investir leur argent dans de tels plans, par crédulité ou par cupidité, en ignorant les risques. Dans certains cas, il peut être difficile de détecter un système de Ponzi, dans d'autres, comme dans celui conçu par Charles Ponzi lui-même, ça semble bien trop beau pour être vrai. Et si vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, alors c'est probablement une escroquerie.